Et si nos petites histoires racontaient la grande histoire?
Moi j'appelle ça une anecdote, et c'est une anecdote au regard de l'histoire. Mais dans la vie de cet homme, c'est pas une anecdote.
À la fin de la nuit, vers 7h du matin, je lui ai raconté mon histoire.
Et de ce jour-là, ma vie a basculé.
Et il a dit, mais Joachim, c'est ton destin. C'est ton destin de gitan, même. Ça veut dire que si tu vas à l'encontre de ça, il va t'arriver des bricoles.
Moi, j'étais tellement jeune qu'il y a des choses que c'est vague dans mon cerveau.
Notre histoire raconte la vie dans une ferme française.
Le coffre aux histoires vraies.
Comment on vit en 1971?
Un podcast de Globe Conteur réalisé par Alaphonie.
Dans la vie de tous les jours, ça ne devait pas être très facile.
Le coffre aux histoires vraies. Souvenirs de guerre.
Donc, je me vois encore dans la cour, il y avait des gens qui collaient des affiches le long du bâtiment qui était le long de la route.
Et on s'est retrouvés tous bloqués dans ces abris, dans ces deux abris.
Et on me disait, la guerre est déclarée. Lui partait le lendemain matin, il était sous-officier, puis il partait en vélo, voilà.
Et une bombe est tombée à peu près à 10 mètres de notre abri. Évidemment, ça a été la panique.
Ils sont tous largement centenaires, ces derniers poilus de la Grande Guerre. Aujourd'hui, il n'en reste que 4 qui sont notre mémoire vivante.
Mon grand-père, qui était né donc au 19e siècle, a fait la guerre de 14. Mes recherches généalogiques se sont croisées avec donc la commémoration de 1914, en 2014. Et moi, à ce moment-là, la seule chose que je savais de mon grand-père, c'est qu'il avait été prisonnier des Allemands. Il y avait une fiche à la Croix-Rouge avec le nom de mon grand-père sur lequel j'espérais avoir des infos. Et j'ai été très déçu parce qu'il y avait juste le nom où il avait été fait prisonnier. Et probablement, j'ai dû raconter à ma maman que j'étais déçu. Et c'est probablement à cette occasion que du coup, elle m'a raconté ce que mon grand-père lui avait raconté. J'ai appris que mon grand-père avait été laissé pour mort sur le champ de bataille par les Français. En tout cas, mon grand-père est resté un temps assez long sur le champ de bataille, blessé, incapable de se déplacer. D'après ce qu'il a raconté à ma maman, les vers s'étaient mis sur lui, il avait commencé à être bouffé par les vers et tout. Et ce sont les Allemands qui l'ont découvert vivant, et c'est un médecin allemand qui l'a sauvé. Alors je suis reparti dans mes recherches. Et là, je me suis aperçu que, effectivement, pendant la guerre, nourrir les blessés, ça coûtait beaucoup d'argent. Et que donc, la Croix-Rouge avait organisé un échange de prisonniers entre les Allemands et les Français. Les prisonniers qui ne pouvaient plus combattre. Hein. On les rendait à leur nation d'origine. Mais mon hypothèse, c'est qu'effectivement, en fait, mon grand-père n'était plus en état de combattre, même si le médecin lui a sauvé la vie, et qu'il allait être échangé contre d'autres prisonniers allemands. La suite de l'histoire, c'est que pendant sa captivité avec les Allemands, à un moment donné où le soldat allemand trouvait que les prisonniers n'avançaient pas assez vite, il a donné un grand coup de crosse dans les reins à mon grand-père. Et ça, c'est une blessure qui, après, effectivement, en 1940, mon grand-père a été opéré de cette blessure. Et a priori, c'est de là que s'est déclenché le cancer qu'il a emporté en 1961. Moi, toute mon enfance, on m'a dit beaucoup de mal de mon grand-père, hein, que c'était pas un marrant, que c'était pas... Mais à chaque fois, on l'attribuait à ses origines de paysan breton, on l'attribuait à toutes ces choses-là. À son mauvais caractère, des choses comme ça. Jusqu'à ce que j'apprenne cette anecdote en 2014, où je me dis, mais probablement aussi, quand tu sors d'une expérience de ce type, peut-être t'es pas très marrant après le reste de la vie, quoi. Et je m'interroge vraiment sur comment on s'en sort de ça, quoi. Mais je me dis, tous ces hommes qui se sont crus, enfin qui se sont vus mourir dans, puis dans un temps long, quoi. Mon Dieu, mais c'est terrible, quoi. Je sors de quoi avec ça? C'est un questionnement. C'est comment il a fait, comment ils ont fait ces hommes pour s'en sortir.
Six mois après la chute de la Pologne, Hitler se retourne vers l'Ouest. Après la Hollande et la Belgique, c'est au tour de la France d'affronter les Stukas et les divisions blindées allemandes.
Oui, alors mon père était vigneron dans un petit village et à côté il y avait un château qui avait été réquisitionné par les Allemands. Et il venait acheter du vin au vignoble.
Ma maman travaillait, je crois, 4 jours par mois, je ne sais plus très bien, au bureau où ils distribuaient les cartes d'alimentation. Et si la carte, les Allemands avaient contrôlé la carte, on pouvait avoir les tickets d'alimentation.
C'était Dégradé qui avait réquisitionné le château et il envoyait leur ordonnance acheter du vin. Je pense qu'il devait se ravitailler dans toutes les fermes aux alentours.
Tout ça, c'était pour faire la chasse aux jeunes, pour essayer de les récupérer, pour qu'ils aillent au STO, travail obligatoire. Mais il y a eu quand même beaucoup de familles, beaucoup de jeunes qui ne voulaient pas y aller et qui se sont cachés.
Il y en a un qui rentre dans le jardin et il voit de la salade. Mais il ne parlait pas français. Mais il fait signe à ma mère qu'il voulait une salade et qu'il voulait la manger sur place.
Oui, mais il n'avait plus de carte d'alimentation. D'accord. Et donc, il n'y avait plus comment ils allaient manger. C'était compliqué, quoi, parce qu'il n'y avait plus assez à manger. Ouais.
Alors, elle va chercher un saladier, elle lave sa salade, elle met de la vinaigrette, et quand tout a été bien prêt, eh bien, il a replongé la salade dans l'eau et il l'a mangée comme ça, sans rien.
Et alors, en fait, ma maman travaillait à ce bureau, mais moi, finalement, je connaissais. Enfin, il y a des jeunes, des familles qui me connaissaient. Donc, qui me donnait les cartes. D'accord. J'allais avec mon cartable en sortant de l'école pour dire bonjour à maman. Et je rentrais et qu'on attendait qu'il y avait une surveillante allemande qui surveillait le personnel français.
Puis alors, moi j'étais à côté de ma mère, on avait peur des Allemands à l'époque.
Ouais. Et quand on avait tourné le dos, vite je donnais la carte à ma mère qui tamponnait, je reprenais la carte et les familles me recontactaient pour récupérer la carte tamponnée.
Alors il met sa main sur ma tête et puis il sort son portefeuille, il fait voir une petite fille qui était dans mes âges. Et alors il avait les larmes aux yeux, il nous faisait voir qu'il l'avait laissée en Allemagne, que ça le peinait d'être là, quoi. Oui, ça m'avait vraiment frappée. Hein.
Pourquoi ça t'avait marqué?
Eh bien, parce que j'avais peur des Allemands, mais je m'étais rendu compte que finalement, il n'était pas là de leur plein vouloir.
Pendant la guerre, nous avons été très souvent bombardés. D'abord par les Allemands, et puis en 1944, au moment de la libération, par les Américains.
Au flanc du fameux mur de l'Atlantique, les Alliés ont pratiqué déjà une large brèche. Il y a quelques jours encore, les forces alliées ne disposaient que de quelques têtes de pont. Aujourd'hui, tout un pan de la forteresse européenne est démantelé.
Il y avait un abri anti-aérien sous un café. Du café était descendu de la clientèle, et en particulier des Allemands. Qui nous disaient... C'est les Américains, c'est pas nous qui bombardons.
Et le 21 mai 1945, il est revenu. Et puis on est allé chez Chaubourg avec des fleurs et tout ça qu'ils avaient mis. Et je m'en ai dit, voilà ton père, je ne le connaissais pas.
C'est là que quelques heures plus tard, le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française, allait revenir en France. La France qui, sous son inspiration, depuis 4 ans, n'a jamais cessé de lutter aux côtés de ses alliés.
Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le coffre aux histoires vraies, consacré aux souvenirs de guerre. Il met en scène quelques-uns des témoignages que l'association Globe Compteur et ses collecteurs récoltent depuis 2017 sur tout le territoire français et au-delà, à l'appui de nombreux partenariats locaux. L'objectif du projet ? Proposer une histoire populaire et sensible, tissant des liens entre les générations et les cultures. Dans cet épisode, vous avez pu entendre les récits de Marie-Françoise, collectée par Patricia à Lanrela, de Josette, collectée par Pauline à Amiens, de Véronique, collectée par Antoine près de Morlaix en Bretagne, de Jean, collectée par Christian à Saint-Lambert-du-Latay, de Jeanne, collectée par Cédric à Saint-Lambert-du-Latay, de Monique, collectée par Irène à Paris. Le tout enrichi de quelques extraits d'archives et des bruitages de Joseph Sardin de la sonothèque.org. Retrouvez tous les témoignages via la carte vivante sur le site globecompteur.org, un podcast du studio Alaphonie.